Une étape dans le Nord pour la ministre des Outre-mer. Après une rencontre avec Paul Néaoutine, Naïma Moutchou doit visiter une exploitation agricole à Pointe-Bout. Hier, la ministre a consacré l'essentiel de sa journée à des rencontres bilatérales avec les différents groupes politiques. Nous y reviendrons dans un instant. La remise en route des cantines des établissements scolaires de l'enseignement catholique. Elles étaient restées fermées la semaine dernière en raison d'un bras de fer entre la DEC et les institutions. En métropole, Emmanuel Macron reçoit Mahmoud Abbas à l'Élysée en tant que président de la Palestine. Les deux hommes ont notamment annoncé la création d'un comité commun pour rédiger la constitution de l'État de Palestine. Une marche blanche en mémoire de Matisse, ce jeune homme de 19 ans mortellement fauché par un chauffeur au début du mois à Lille. Ses parents veulent rencontrer le ministre de la Justice. Et puis dans la page sport, un Calédonien aux Océania de force athlétique qui débute demain en Nouvelle-Zélande. Nous avons rencontré Victor Tirbac juste avant son départ. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Naïma Moutchou a donc entamé ce matin son troisième jour de visite en Nouvelle-Calédonie et sa journée a débuté par la province Nord. La ministre des Outre-mer a en effet été accueillie chaleureusement ce matin à l'hôtel de la province par Paul Néaoutine. Naïma Moutchou a tenu à remercier le président de l'institution. Elle a rappelé aussi ses origines marocaines et berbères où le respect des traditions fait également partie de la culture, tout comme la symbolique de la natte, a-t-elle dit. Elle a souhaité repréciser les raisons de sa venue et sa méthode, basée sur l'écoute. Ce n'est pas la première fois que Naïma Moutchou rencontre le président de la province Nord. Elle était déjà venue à l'hôtel de province en 2018 avec la mission d'information sur la Nouvelle-Calédonie de l'Assemblée nationale.
Nous nous revoyons aujourd'hui quelques années plus tard, toujours pour évoquer le passé et toujours pour parler d'avenir. Car l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai beaucoup insisté depuis mon arrivée sur le respect que nous devons à l'histoire, aux mémoires, et au dialogue vrai. Rien ne peut se construire si nous n'affrontons pas la réalité de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Et donc c'est important de se dire les choses comme nous l'avons toujours fait. Et je suis heureuse que le lien existe déjà et que nous continuons ensemble à le perpétuer. Je le dis d'autant plus qu'il y a un espoir de voir un avenir se construire, un chemin se tracer. Vous avez cette capacité, Monsieur le Président, à rassembler vous-même. Vous savez ce que ça signifie. Vous faites partie de l'histoire de ce territoire. Vous l'avez forgé. Nous aurons besoin de vous, évidemment, pour traverser cette période de l'histoire, toujours avec la même méthode, celle de l'échange, celle du respect profond et celle de l'amitié, je l'espère.
Et Paul Néaoutine a pour sa part longuement expliqué à Naïma Moutchou le sens du geste coutumier réalisé avant leur entretien et il a mis en garde ceux qui souhaitent réinterpréter ses propos. Une allusion à ce qui est ressorti de la dernière assemblée de la province Nord au cours de laquelle l'accord de Bougival a été abordé. Paul Néaoutine s'est montré très amical avec la nouvelle ministre des Outre-mer.
Je suis toujours sur les fondamentaux culturels, politiques. Je suis quelqu'un qui a toujours respecté ce pour quoi il a été mandaté et les résultats de ce sur quoi j'ai été mandaté. Là, je le rapporte à mes mandants et je me tiens sur les fondamentaux culturels, politiques. Ceux qui veulent donner une mandat d'obligation, c'est à eux de voir. Mais moi, quand je dis off, c'est off. Ce que je dis à l'Assemblée de la province Nord, c'est public. Et moi, j'accepte pas que ceux qui ne sont pas là, j'interprète ce que je dis. Moi, je n'ai jamais accepté de faire instrumentaliser par qui que ce soit, en interne, ni au niveau de l'État.
Et voilà, un entretien avec Paul Néaoutine qui aura duré près de 2 heures à l'hôtel de la province à Koné. Et après cette rencontre à l'hôtel de province, Naïma Moutchou a pris la direction de Pointe-Bout où elle doit visiter une exploitation agricole. Une visite que suit pour nous Mickaël Juneski. Vous pourrez retrouver un reportage complet ce soir dans le journal de 17h45. Cette visite dans le Nord a pris du retard et la ministre a annulé son déplacement au Mont-d'Or où elle devait rencontrer en début d'après-midi les gendarmes sur le verrou de Saint-Louis. Mais elle a rendu visite ce matin aux forces de l'ordre stationnées à Koné. Elle devait aussi s'entretenir avec l'association Citoyens Mondoriens. Son président Florent Perrin a demandé une entrevue à la ministre avant son départ en fin de semaine. Demain, sauf changement de programme, Naïma Moutchou visitera au 4e jour de sa visite le camp Est en début de journée avant de prendre la direction de l'IFOU. Elle s'entretiendra avec le président de province, Mathias Ouaneux, et les maires des loyautés. Naïma Moutchou rencontrera ensuite des membres d'associations de femmes, des acteurs du tourisme en Calédonie et visitera la maison de la vanille. La ministre des Outre-mer a consacré sa journée d'hier aux rencontres bilatérales et elle a échangé avec l'ensemble des groupes politiques, y compris le FLNKS. La plupart de ses interlocuteurs soulignent sa volonté de trouver un chemin, mais pour le moment, Elisabeth Noir, la ministre, n'a apporté aucune réponse.
Et on ne sait pas si la ministre des Outre-mer parviendra à réunir une réunion multilatérale avant la fin de son voyage. Mais la plupart de ses interlocuteurs souligne sa volonté de trouver un chemin. L'un des faits du jour hier, c'est que le FLNKS a répondu à l'invitation de la ministre des Outre-mer, même si c'est pour réaffirmer son refus de Bougival et sa méfiance envers l'État. Le cap ne change pas, a déclaré Dominique Fauchy. L'UNI, de son côté, a proposé d'améliorer l'accord de Bougival, notamment pour modifier les modalités de transfert des 4 compétences régaliennes restantes et pour introduire un acte d'autodétermination. Vous avez pu entendre ces déclarations dans nos précédentes éditions. Les loyalistes n'ont pas souhaité s'exprimer à l'issue de leur entretien avec Naïma Moutchou. Ils indiquent seulement avoir évoqué avec la ministre l'avenir institutionnel du territoire et les prochaines étapes de l'application de l'accord de Bougival. Déclaration en revanche pour Virginie Ruffnac de la délégation du Rassemblement. Elle estime que la ministre comprend les enjeux et qu'elle est convaincue qu'il faut avancer. Mais la vice-présidente du Rassemblement s'interroge sur l'attitude du FLNKS.
Je comprends qu'il n'y a pas vraiment de volonté de travailler sur Bougival de la part du FNKS. J'aurais espéré qu'il en soit différemment, mais semble-t-il, il n'y a pas une grande volonté d'essayer de travailler et d'avancer pour permettre l'accord des Calédoniens. Et c'est la question que nous nous sommes toujours posée. Le FNKS, aujourd'hui, dans sa nouvelle version et dans sa nouvelle composition, veut-il vraiment un accord pour la Nouvelle-Calédonie ? Je crains que non. J'espérais que la réalité soit différente, mais c'est ainsi. Nous devons composer avec cette réalité. Nous devons sortir les Calédoniens de la difficulté dans laquelle ils se trouvent. Et pour cela, il faut un accord pour tous les Calédoniens qui donne perspective et visibilité sur l'avenir. C'est indispensable. Je crois que la ministre a envie qu'on avance. C'est une nécessité absolue. C'est une question de survie pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est aussi ce que nous avons défendu.
Virginie Ruffnac comprend par ailleurs que l'UNI formule des propositions, mais elle rappelle que dans leur majorité, les Calédoniens veulent rester français.
C'est une discussion que nous devons avoir pour être très franc. Et nous l'avons déjà dit, les partisans de la France ont fait des pas très importants dans le cadre de l'accord de Bougival. Nous avons avancé sur beaucoup de choses et donc notre marge de manœuvre n'est pas grande aujourd'hui parce qu'il va bien falloir que les Calédoniens votent cet accord et qu'ils bénéficient d'une majorité, cet accord. Or, les Calédoniens, ils ont choisi à 3 reprises le non à l'indépendance majoritairement. Donc ils souhaitent une Calédonie qui reste au sein de la République française et donc cet accord ne peut pas être de côté vis-à-vis de cela. C'est tout l'enjeu des discussions qu'on va avoir, mais c'est bien que l'UNI s'exprime. Chacun doit s'exprimer et on essaie de trouver un chemin ensemble parce que c'est de notre avenir dont il s'agit et de ceux des Calédoniens aujourd'hui.
C'est ensuite la délégation Calédonie Ensemble qui a pris le relais auprès de la ministre des Outre-mer, une délégation composée de Philippe Gomez, Philippe Michel et Philippe Dunoyer. Philippe Dunoyer qui relève les 2 choses essentielles qui y ont été dites à Naïma Moutchou.
2 choses essentielles. La première, c'est qu'il faut absolument, et on y est prêt, retrouver un chemin de discussion, réouvrir des discussions, des négociations pour parvenir à dégager une solution institutionnelle qui soit consensuelle, en tout cas plus largement consensuelle. Et l'autre point qui n'est pas non plus une surprise, qu'elle sait, mais sur lequel il faut revenir, c'est la situation économique, fiscale, sociale, terrible que traverse le pays, que connaissent les Calédoniens et qui est chaque jour beaucoup plus grave. Donc en réalité, on a 2 urgences. La première qui est connue depuis un moment et qui stagne. La seconde, qui elle évolue négativement tous les jours, avec un accompagnement de l'État qui est très largement perfectible sur la forme et sur l'ambition.
Et c'est enfin l'éveil océanien qui a clôturé cette journée de bilatérale avec Naïma Moutchou. Il a été question des finances publiques et des discussions politiques, précise Mila Koulotokoumouli.
On a fait un point ensemble des discussions qui sont tenues aujourd'hui, comment on voyait la situation évoluer. On verra s'il y a d'autres rencontres dans la semaine. C'est une bonne nouvelle que FNKS soit venu à la rencontre de la ministre des Outre-mer. C'est une bonne chose. Après, voir si les choses vont se poursuivre demain, après-demain. Là, on est en rencontre bilatérale. Il faudra voir si, à un moment, on peut faire des réunions plénières. L'ensemble des partenaires politiques ont parlé d'amender Bougival pour permettre au FLNKS de rentrer dans le dispositif. Maintenant, c'est au FLNKS de dire quels sont les amendements qu'ils souhaitent apporter à Bougival.
L'éveil océanien qui espère des réponses rapides essentiellement sur le volet du financement de la part de l'État. Une journée d'échanges politiques qui a permis à Naïma Moutchou de rencontrer l'ensemble des délégations politiques. Reste à savoir si elle réussira à mettre tout le monde autour de la table pour une séance plénière. Mais elle s'est dit prête à bousculer son agenda si des multilatérales étaient possibles.
Et revenons maintenant sur la journée de Naïma Moutchou dans le Nord. Nous avons parlé au début de ce journal de sa rencontre avec Paul Néaoutine. La ministre poursuit donc son programme et elle est actuellement sur une exploitation agricole à Pointe-Boute où l'on retrouve Michael Juneski.
Oui, absolument, Jean-François. Une séquence sur le terrain, ici, sur la propriété de Stéphane Soury-Lavergne, qui est donc producteur, hein, basé à Pointe-Boute, vous le disiez. La ministre des Outre-mer qui a débuté ce déplacement tout d'abord par un tête-à-tête avec des représentants du monde agricole. Stéphane Soury-Lavergne lui-même, le président de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche, Jean-Christophe Notou, est aussi présent ici. C'est l'occasion pour les producteurs, les éleveurs, de faire passer un certain nombre de messages à Naïma Amoutchou sur les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Notez que le maire de Pointe-Boute est aussi sur place, tout comme la première vice-présidente de la province Nord. Une séquence qui est aussi tournée vers la jeunesse, puisque au moment où je vous parle, des jeunes du lycée agricole Michel Rocard de Pointe-Boute qui ont fait le déplacement ici ont l'occasion d'échanger avec elle, au total 22 élèves qui peuvent discuter librement. Depuis tout à l'heure, on les suit. Chacun à leur tour prend la parole. La ministre a l'occasion d'échanger, de leur poser des questions sur leur parcours, sur ce qui les a poussés à s'engager dans une filière agricole. Un échange dans la bonne humeur, évidemment, avec la ministre des Outre-mer, ici, au cœur de cette exploitation agricole de la province Nord. Depuis Pointe-Boute, Mickaël Juneski, RRB.
Merci, Mickaël. Et évidemment, un retour sur cette visite dans le Nord, ce sera dans notre édition ce soir à 17h45. En attendant, il est 11h42. Dans un instant, la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chaque mardi, à 11h et 15h, partez à la rencontre de ceux qui agissent pour protéger notre biodiversité. La rubrique Environnement donne la parole à des associations, des bénévoles, des scientifiques, des acteurs connus ou inconnus qui agissent pour protéger notre patrimoine naturel et exceptionnel. Une émission réalisée en partenariat avec la Province Sud.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, et vous le savez, c'est aujourd'hui la reprise des cantines dans les établissements scolaires de l'enseignement catholique. Une bonne nouvelle pour les quelques 9000 élèves demi-pensionnaires et internes qui avaient été privés de ce service depuis le 3 novembre dernier, Léana Colombo.
Voilà plus d'une semaine que les cantines avaient fermé leurs portes en raison de la situation financière fragile de la direction diocésaine de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie. De nombreuses familles avaient dû s'organiser pour apporter les repas à leurs enfants durant la pause du midi. Mais comme avait prévenu en milieu de semaine dernière le directeur de la DEC, Manuel Von Erscott, une reprise progressive des services de cantine a été effectuée ce jour. Comme nous sommes mercredi, les demi-pensionnaires ne mangent pas dans les établissements scolaires, contrairement aux internes. 70 sont dans ce cas au lycée Blaise Pascal à Nouméa, mais aujourd'hui, seuls 40 mangeront à la cantine. Ils seront accompagnés de 13 collégiens de la classe théâtre de Cluny. Et pour satisfaire tout le monde, le personnel a débuté la préparation du repas dès 10h30 ce matin.
Aujourd'hui, on a fait une salade de poisson avec du riz. Ça, là, c'est un plat calédonien où les enfants aiment beaucoup le poisson aussi, surtout en salade. Et en dessert, on a mis une pâtisserie. Normalement, c'est des éclairs. Voilà, ils adorent. Aujourd'hui, comme il n'y a pas beaucoup d'élèves, en fait, c'est un effectif de 40. Donc, il y a un cuisinier qui fait la salade de poisson, il y a un qui fait le riz et il y a un qui fait les préparations pour le lendemain, c'est-à-dire la salade verte qui est déjà nettoyée pour le repas de demain de midi, en fait, pour que ce soit bien désinfecté.
Tout ce qui est préparé, sont préparés dans la chambre stérilisée qui est ici. On appelle ça la chambre de préparation.
Ça fait plaisir un petit peu de reprendre les services de cantine ?
Ah oui, c'est mieux que de rester chez soi à tourner en rond. Hein. On préfère mille fois être au travail que puis accompagner les enfants, c'est tout ça.
À 11h30, le personnel a servi un repas aux élèves du collège de Saint-Joseph de Cluny. Les internes, eux, mangeront à 12h30. Dès demain, le service de cantine reprendra normalement dans tous les établissements scolaires de la DEC et un repas sera donc servi aux 9000 élèves inscrits dans les établissements de l'enseignement catholique.
Salut. Le phare Amédée à l'honneur pour les 160 ans de sa mise en service. C'était le 15 novembre 1865. Il est à ce jour le dernier phare métallique encore en activité. La décision de construire un phare sur un îlot à l'approche de Nouméa avait été prise quelques années plus tôt, nous a expliqué Valérie Vattier. La directrice du musée maritime était ce matin notre invitée à 7h30.
C'est le gouverneur Cessé qui a alerté la marine française de la dangerosité du franchissement des passes. Il commençait à y avoir pas mal de naufrages et donc il fallait faire quelque chose. Et la décision officielle date de février 1861. Alors non, le phare n'est pas arrivé par erreur, on entend bien souvent. Il est vrai qu'à cette époque-là, il y avait une confusion entre Port-de-France et Fort-de-France. C'est d'ailleurs pour ça que Port-de-France s'est appelé Nouméa par la suite. Pour mettre fin au mythe, ce phare a été mûrement réfléchi. La hauteur est assez impressionnante pour l'époque. La tour fait 45 mètres, 55 mètres jusqu'au sommet. Donc il était assez démesuré pour les besoins de la Nouvelle-Calédonie. Mais à cette époque, il y avait une volonté de vouloir développer le trafic maritime, notamment entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, pour faire de la Nouvelle-Calédonie une plateforme maritime dans le Pacifique.
Et pour marquer ce nouvel anniversaire, le musée maritime a décidé d'illuminer le phare chaque soir depuis hier et jusqu'à samedi. Vous pourrez voir le spectacle préparé par Laurent Lange, créateur de lumière, qui avait déjà réalisé cette performance en 2015 pour les 150 ans de l'inauguration du phare.
Là, on a été un peu dépassé par l'énorme buzz qu'il y a eu dès qu'on a lancé la communication. Donc, tant mieux. Après, certainement que les gens sont un peu déçus parce qu'il y avait beaucoup de monde au Wento hier soir. Il faut vraiment avoir des jumelles pour voir. En plus, le temps, c'est un peu couvert. Voilà, à l'œil nu, c'est très compliqué de voir. Bien sûr, avec un moyen de navigation, c'est encore mieux. Il y avait du monde, d'ailleurs, autour de l'îlot hier soir.
Oui, parce qu'on peut s'approcher, on peut aller au mouillage, comme d'habitude.
Oui. Par contre, le débarquement de nuit n'est pas autorisé.
Voilà, les personnes qui ne peuvent pas se rendre en bateau aux abords de l'îlot peuvent donc profiter des illuminations depuis la colline du Wentoro. C'est chaque soir jusqu'à 22h, mais il est conseillé, vous l'avez entendu, de se munir de jumelles. Autre solution pour admirer ces illuminations, l'événement spécial du Marais Day prévu vendredi soir à partir de 17h, pour lequel il est nécessaire de réserver. Parlons maintenant d'un autre édifice, témoin lui aussi de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, la bibliothèque Bernheim, qui est en cours de rénovation. Pendant la durée des travaux, la bibliothèque avait déménagé dans un local provisoire qui va bientôt fermer ses portes, Charlotte Coulson.
Oui, le bâtiment situé rue Anatole France, en haut de la place des Cocotiers, permettait d'offrir aux Calédoniens un lieu de lecture, un service d'emprunt depuis la fermeture de la bibliothèque Bernheim en septembre 2023 pour travaux. Sa réouverture approchant doucement, le personnel doit se préparer à déménager. Solange Payandi est la directrice de la bibliothèque Bernheim.
On va fermer cette bibliothèque pour préparer l'installation dans les nouveaux locaux de la bibliothèque Bernheim. Et donc, nous avons besoin de temps pour préparer les collections de livres qui vont intégrer la nouvelle bibliothèque. On sera à peu près sur 50 000 livres. Et en fait, nous allons passer donc sur un nouveau système concernant la gestion de ces livres, de nouveaux équipements qui vont nous permettre d'assurer la meilleure sécurité de nos livres et aussi d'en gérer le prêt, le retour, comme nous le faisions jusqu'à présent.
Il n'y aura donc plus d'accueil du public après le samedi 15 novembre. Il n'y a pas de date précise pour l'instant concernant l'ouverture de la bibliothèque Bernheim. Les travaux avancent selon Solange Payandi.
Le bâtiment devrait être livré en février 2026, mais l'ouverture au public ne se fera pas immédiatement. Il y aura une période de marche à blanc de quelques mois donc pour tester les nouveaux équipements avant qu'on puisse accueillir du public à nouveau. Alors la date d'ouverture n'est pas encore fixée, mais on a bon espoir que l'ouverture se fasse dans le premier semestre 2026.
Et notez que pendant cette période de fermeture, le nombre de documents à emprunter est augmenté à 10 livres par adhérent et la durée du prêt prolongée jusqu'à la réouverture de la bibliothèque Bernheim. Pendant cette période, les retours pourront se faire à l'antenne du Médipôle ou sur rendez-vous auprès des bibliothécaires.
L'actualité dans la région et l'on reparle des tensions entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook. Le gouvernement des Cook vient de préciser qu'en dépit des turbulences actuelles entre les deux pays, il continuera à entretenir des relations durables avec la Nouvelle-Zélande. Les îles Cook et la Nouvelle-Zélande sont liées, je vous le rappelle, par un pacte de libre-échange. Les explications de Jean-Pierre Zajac.
Cette mise au point est venue en réponse à la décision prise par Wellington de suspendre le versement d'une deuxième tranche de développement des îles Cook, portant ainsi le montant total des sommes en suspens à environ 1,750 milliards de nos francs. Le désaccord entre les deux gouvernements découle de quatre pactes que le Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, a signé avec la Chine en début d'année, sans consultation préalable avec Wellington, qui s'en est offusqué. Nous restons attachés à notre relation durable de libre association avec la Nouvelle-Zélande, a déclaré un porte-parole du gouvernement de Mark Brown. Les îles Cook sont seules responsables de la détérioration des relations entre nos deux pays, a estimé en réponse le Premier ministre kiwi, Chris Luxon. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h51, dans un instant la suite de ce journal avec une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Le 11 novembre, célébré hier sur le territoire et la nuit dernière pour nous en métropole. Cérémonie pour commémorer l'armistice signé il y a 107 ans dans la forêt de Compiègne et qui mit fin au terrible combat de la Première Guerre mondiale. Cette journée est aussi maintenant dédiée aux soldats morts dans les différents conflits. Emmanuel Macron a présidé la cérémonie à Paris, mais le souvenir du 11 novembre est aussi commémoré partout en France. Exemple à Bordeaux avec le reportage de Stéphane Place pour Europe 1.
Croisé au pied de l'imposant monument aux morts bordelais, Bruno, 60 ans, appareil photo en main, ne rate jamais la commémoration du 11 novembre.
Moi, mes deux grands-pères ont fait 14-18, mon père a fait 39-40, donc ça a une importance, oui. Parce que ça fait partie des moments où on se souvient que la guerre, eh bien, il faut essayer de l'éviter, il faut essayer d'avoir la paix le plus longtemps.
31 ans, Hugo est venu en couple assister à la cérémonie.
C'est important d'être présent ce matin pour justement se rappeler ensemble des atrocités de 14-18. On se rend compte que c'est pas juste des livres d'histoire et que justement, aujourd'hui, le conflit en Europe est présent et partout ailleurs dans le monde aussi.
Remise de décoration, lecture de textes, musique militaire, ravivage de la flamme, ses pères, ses mères de famille tenaient à partager ce moment avec leurs enfants.
Je comptais faire découvrir un petit peu les drapeaux à ma fille. Bon, elle a que 2 ans, mais il y a des couleurs, il y a de la musique. Le premier pas.
C'est important pour que les enfants comprennent pourquoi ce jour est férié déjà, parce qu'on a une fille qui est grande qui commence déjà à poser des questions.
Le général Stéphane Groen, officier général de la zone de défense et de sécurité sud-ouest.
Le fait d'avoir la jeune génération lors de ces cérémonies de commémoration avec un impératif, un devoir de transmettre la mémoire et le souvenir, c'est important. Le rôle des militaires, c'est de diffuser l'esprit de défense auprès de la jeunesse. Et le fait que les jeunes aient répondu nombreux, bah, moi, ça me fait chaud au cœur.
Bordeaux, Stéphane Place, Europe.
Un 11 novembre, au cours duquel plusieurs centaines de personnes ont participé à Saint-Omer à une marche blanche en souvenir de Matisse. Ce jeune homme de 19 ans a été mortellement fauché par un chauffard multirécidiviste qui conduisait sans permis et sous protoxyde d'azote. Marche blanche au lendemain des obsèques du jeune garçon, au cours de laquelle son père Emmanuel a pris la parole.
Et je veux vraiment que ça serve à quelque chose, parce que l'individu risque 10 ans et c'est pas normal. Le protoxyde d'azote, il n'est pas interdit. Donc ça, il faut que ça change.
Les parents de Matisse souhaitent rencontrer le ministre de la Justice auquel ils veulent faire des propositions. Comme vous l'avez entendu, aucune loi ne réprime la conduite après l'inhalation de protoxyde d'azote ou de tout autre gaz hilarant. Les députés poursuivent leur marathon budgétaire et devraient voter dans les prochains jours la suspension de la réforme des retraites. Reste à savoir comment va se poursuivre la réflexion sur le sujet. Gabriel Attal a fait une proposition. L'ancien Premier ministre souhaite l'introduction d'une dose de capitalisation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Alexis de La Fontaine.
Chaque enfant recevra à sa naissance la somme de 1000 euros. Cet argent sera bloqué jusqu'à sa retraite et pendant ce temps, elle sera placée dans un fonds souverain, c'est-à-dire un fonds d'investissement géré par l'État. Les parents et grands-parents pourront également abonder cette épargne via des dons défiscalisés. Cette idée est largement défendue par les grands économistes français et internationaux comme Philippe Aguillon, le dernier prix Nobel d'économie. Mais alors, combien ça coûte ? Réponse, pas grand-chose, hein, 660 millions d'euros par an, c'est-à-dire une goutte d'eau. Pour rappel, en 2025, le système par répartition est en déficit de 6 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qui pousse Gabriel Attal à basculer maintenant vers une capitalisation? Eh bien, au-delà du vaste soutien populaire, 60% des Français y sont favorables, selon les derniers sondages. Tout simplement, car la suspension de la réforme des retraites devrait à nouveau fragiliser notre système par répartition.
Mahmoud Abbas, reçu en grande pompe à l'Élysée comme président de la Palestine. Cette invitation a été lancée par Emmanuel Macron, qui tente de jouer un rôle dans le respect du cessez-le-feu et surtout la mise en place d'un plan de paix. Les deux hommes ont notamment annoncé la création d'un comité commun pour rédiger la constitution de l'État de Palestine. Maïlène Trémollet.
Pour la première fois, Mahmoud Abbas aura été reçu en France à l'Élysée sous le statut de président de la Palestine. Principale exigence d'Emmanuel Macron, la tenue rapide de nouvelles élections.
La priorité va à l'organisation d'élections présidentielles et d'élections générales libres et démocratiques dans l'ensemble des territoires palestiniens. Cette visite consacre une nouvelle étape dans la relation entre la France et l'État de Palestine.
Des élections promises par Mahmoud Abbas qui, pour obtenir le soutien de la France, s'engage par ailleurs à livrer l'un des principaux suspects de l'attentat qui avait ensanglanté la rue des Rosiers en 1982 et qui se cachait à Ramallah depuis. Il faut dire que derrière le discours officiel, cette visite revêt surtout un double objectif. D'une part, renforcer sa légitimité pour le président de l'autorité palestinienne et d'autre part, pour Emmanuel Macron, se montrer comme l'artisan du prochain plan de paix, très largement mené à ce stade par Donald Trump. De son côté, l'ambassade d'Israël dénonce un parti pris du président français qui condamnerait la nation à un simple rôle d'observateur au Moyen-Orient.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Trouvez-vous normal que Nicolas Sarkozy, qui a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, ait l'interdiction de rencontrer le ministre de la Justice, Gérald Darmanin? Si vous trouvez que c'est normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Une information pratique avant de passer au sport avec cette intervention technique en cours sur le pylône du Mondo qui perturbe la diffusion de Radio Rythme Bleu dans le secteur de la Foy, Boulou, Paris et Tontouta. Intervention technique menée par l'OPT. Il s'agit d'une coupure indépendante de notre volonté, mais nous vous présentons évidemment toutes nos excuses pour la gêne occasionnée, en espérant que la situation revienne le plus vite possible à la normale. 11h57, la dernière pause de ce journal, et on se retrouve pour le sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
C'est la fête chez Auchan Café Rie et Auchan Auteuil. Du 3 au 30 novembre, on célèbre nos 2 ans avec un grand jeu anniversaire. 3 millions de francs de cadeaux à gagner et un super caddie surprise de 55 000 francs chaque jour et par magasin. Et en plus, profitez de bons d'achat, de remises en cagnottage et de prix promo tout le mois. Auchan Café Rie et Auchan Auteuil, 2 ans et toujours plus pour vous.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Tout le sport, tous les sports, et notamment du tennis, Lionel Sabot. On va parler de la suite du Masters à Turin, c'est le dernier grand tournoi de la saison, et on jouait cette nuit dans le groupe Jimmy Connors.
Oui, et cette nuit pour nous, l'Espagnol Carlos Alcaraz a signé sa 2e victoire de rang en s'imposant en 3-7 sur l'Américain Taylor Fritz, score final 6-7, 7-5 et 6-3. Dans l'autre match de la matinée, rencontre extrêmement serrée entre l'Italien Lorenzo Musetti et l'Australien Alex de Minaur, finalement devant son public, c'est Musetti qui s'est imposé en 3-7, score final 7-5, 3-6 et 7-5. Demain, on jouera dans le groupe Björn Borg. L'Américain Ben Shelton rencontrera le Canadien Félix Auger-Aliassime. Et dans l'autre match, l'Italien Yannick Sinner rencontrera l'Allemand Alexander Zverev.
Allez, on passe au football féminin maintenant avec le coup d'envoi de la 3e journée de la Ligue des Champions. Et 2 clubs français étaient engagés ce matin.
Et devant leur public, les Lyonnais se sont imposés 3-1 sur les Allemands de Wolfsburg. 3e victoire en 3 matchs pour les joueuses de Lyon qui sont en tête de cette première phase de cette Ligue des Champions. 2e club engagé ce matin dans la compétition, le Paris FC qui était en déplacement sur la pelouse du Real Madrid. Les Parisiennes ont longtemps, très longtemps cru qu'elles allaient s'imposer, mais les Espagnols ont égalisé à la 98e minute de jeu. Demain, c'est le Paris Saint-Germain qui sera sur les pelouses européennes. Les Parisiennes qui ont perdu leurs 2 premiers matchs se déplaceront sur la pelouse de Manchester United.
Le sport dans la région pour terminer avec les Océaniens de Force Athlétique olympique qui démarre lundi à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et parmi les athlètes sélectionnés, un Calédonien, Victor Tirbach. À 30 ans, ce sera sa première compétition internationale. La concrétisation de 10 ans de travail, nous a-t-il dit avant de partir. Il s'envolera en effet demain pour la Nouvelle-Zélande.
C'est ma toute première compétition internationale et donc la première aussi en tant que représentant du territoire. Hyper excité. C'est la concrétisation de plus de 10 ans d'entraînement, de sacrifices, de joie, de pleurs, de remise en question, de travail. Ça fait vraiment super plaisir. Mon point fort étant le développé couché, je vais participer à la catégorie développé couché seul. C'est là où je performe le plus et que je prends de plus de plaisir aussi. Moi, mon record personnel en compétition, il est à 220 kg et le record du Pacifique, il est à 230. C'est les barres que j'aimerais approcher, alors peut-être pas à cette compétition, mais peut-être l'année prochaine. L'objectif, ce serait de faire ce genre de performance.
Victor Tirbach sera engagé lundi dans la catégorie Open moins de 120 kg du développé couché lors de ces Oceania de force athlétique qui ont lieu, donc, je vous le rappelle, à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il est midi et une minute. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Infomag se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h, qui sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Bel après-midi à tous.